Kiosque Magazine.
17 avril 2015, il est présentement 9h. Bonjour à tous, ici Geneviève Patterson et oui, je suis de retour, une revenante à l'émission. Vous m'avez beaucoup manqué et je suis évidemment accompagnée de mes chers acolytes Charles Roy. Bonjour Charles.
Bonjour, ça va bien.
Ça va bien. Et Jennifer Vigneri, oui, allô Jennifer.
Salut, ça va?
Oui, ça va bien. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Charles?
Moi, je vais vous parler de Cœur de pirate qui sort son troisième album qui oui. s'appelle Oublie-moi. Oh. Je vous parle aussi d'une sortie en cinéma d'horreur. On en parle très rarement parce que...
Ça fait peur.
C'est ça, ça fait peur. Mais je vais vous parler du film Traqué. Aussi, en théâtre, je vous parle de deux sorties à Québec, Usage et La chatte sur un toit brûlant.
D'accord. Et toi, Jennifer?
Super. Ben moi, en musique, je vais vous parler de René Simard, qui nous revient avec un album éponyme. En cinéma, deux films à ne pas manquer, c'est Sils Mania, qui met en vedette Juliette Binoche, notamment, et Kristen Stewart. Et le film Profil Amina, de la réalisatrice Sophie Derap. Et enfin, on parlera d'un documentaire, L'or du golfe, de Kevin Parent, qui va soulever pas mal de questions, notamment environnementales, et qui peut être très intéressant.
Super. De mon côté, je vous parle de l'Antistar, de Croissant à 1$ à Montréal et puis d'un dictionnaire montréalais bien particulier. Bonne émission.
C'est au café du Monumental National et entouré de plusieurs membres de sa famille et d'amis que René Simard a lancé son 51e album mercredi dernier. Cet album marque un retour vers la chanson et représente bien l'homme de 54 ans qui est devenu René Simard. Patrick Delisle-Crevier nous en parle dans le journal du 24 heures du week-end dernier. Le dernier album du chanteur original de l'artiste remonte à il y a 2 décennies. Et l'idée d'en faire un nouveau était bien loin dans la tête de l'homme occupé aux 1000 autres projets, dont plusieurs mises en scène. Ça mijotait, mais ce n'était pas le bon moment à confier René Simard. Mais je savais que j'allais revenir à la source un jour, et ce moment est venu lorsque j'ai rencontré André Leclerc, qui est compositeur et réalisateur de l'émission Un air de famille. Il m'a présenté des musiques et j'ai eu envie de travailler avec lui, et c'est à partir de là qu'est né le processus de ce disque. Ce disque est simplement intitulé René Simard. D'abord pour le titre, j'ai 51 albums derrière moi et c'est mon premier éponyme, a-t-il expliqué. À l'époque, c'est les autres qui décidaient pour moi et qui trouvaient les titres, alors qu'aujourd'hui, c'est différent. J'ai simplement eu envie de l'appeler René Simard, car c'est un disque qui représente bien qui je suis aujourd'hui. Pour trouver des textes qui lui ressemblent, René Simard a fait appel à son bon ami Nelson Minville, à Monique Fouteux et à Yves Decary. Il y a quelques autres auteurs sur le disque, dont Kaya, alias Francis Martin, de qui je reprends la chanson « Thank you ». C'est une chanson que j'aime bien. Quand est venu le temps de choisir les chansons, je me suis demandé ce que j'avais envie de dire, de raconter. Je suis un homme qui aime se poser des questions et j'avais envie de faire des chansons pour mes enfants et pour ma femme. Parmi les gens réunis pour le lancement de l'album, il y avait la fille de René, Rosalie, 21 ans. Elle était à quelques pas de la scène, plus qu'emballée par le retour de son paternel. Je suis très contente et je suis aussi émue de voir mon père chanter à nouveau et arriver avec des chansons originales, a dit la jeune femme. Ma préférée est L'homme sur la lune, que j'aime beaucoup, et l'effet Pygmalion aussi, car c'est une chanson dans laquelle des enfants s'adressent à leur père. Marie-Josée Taillefé, la femme de René, était elle aussi bien contente. C'est un retour aux sources pour René, et je n'aurais pas pu demander mieux pour lui, a-t-elle souligné. C'est un disque qui fait des chansons qui lui ressemblent, de le voir mettre la chanson de nouveau au premier plan, eh bien ça me fait plaisir. Bah, écoute, ça nous fait plaisir à nous aussi. Justement, bah, je vous propose d'écouter la chanson préférée de la fille de René Simard, c'est « L'homme sur la lune ».
On écoute ça, merci Jennifer.
Oh.
sensation d'être béni de lumière. Celle qu'on attend, la réponse à nos prières. Laisse aller nos rêves éveillés. Quelque part dans ce monde, de destin se rencontre. Nos esprits comme le feu se consument. De la terre jusqu'au ciel, au soleil de l'éternel. Et on danse avec l'or sur la lune. Adieu à nos pleurs et aux douleurs de l'air.
C'était René Simard avec Un homme sur la lune, très belle chanson. Et puis on reste en musique, Charles, c'est le retour de Cœur de pirate.
Exactement, après trois ans après son dernier album, ouais. C'est cet album-là qui sort, Oublie-moi. Outre une collection.
Moi, le titre me fait rire.
Oui, c'est ça.
Elle revient et elle veut qu'on le dise.
Oui, c'est exactement. Ben oui, tant qu'elle ne revient pas. C'est Geneviève Bouchard dans Le Soleil qui nous en parle. Elle donne 3,5 étoiles à l'album. C'est paru le 12 avril, Cœur de pirate, Le Retour. Outre une collection de reprises anglophones mises à sa main pour la série Trauma l'année dernière, Cœur de pirate a donné un avant-goût de la suite des choses en ouvrant une fenêtre sur son très attendu 3e album. Et c'est dans les deux langues officielles que l'auteur-compositrice-interprète a mis la table en dévoilant deux versions d'une même chanson, Carry On et Oublie-moi, toutes deux enregistrées à Stockholm sous la houlette du réalisateur Björn Ytling. Sans délaisser une certaine mélancolie dans le propos, Béatrice Martin joue la carte de la pop en embrassant d'autres influences musicales. Exit le parfum rétro qui embaumait les pièces du deuxième disque, Blonde, la chanteuse habille son piano d'un tissu bien produit de synthétiseurs et de cordes. Aucune date n'a encore été ciblée pour la soirée de lancement de l'album Oublie-moi, mais son agenda de tournée est plus précis. Elle fera escale à l'Impérial le 1er octobre prochain. Oublie-moi de Cœur de pirate est dans vos bacs. Thank you. Et il y a Au cœur de pirates, mais aussi David Jalbert, je crois, qui a fait une apparition, c'est ça?
Oui, effectivement, Charles, on reste toujours en musique. David Jalbert, en fait, va être en spectacle ce soir et demain à 20h au cabaret au Lion d'Or. Et puis, il y a un article ce matin dans le journal Métro, écrit par Claude André, qui s'intitule « L'Antistar ». En prévision de la rentrée montréalaise de sa tournée L'Amour propre, le sympathique David Jalbert s'est prêté au jeu du tourne-disque. Et contrairement aux autres spectacles, il dit qu'il ne s'est gardé aucune carte dans sa manche. Après 3 tournes, on sera déjà comme si on était rendu au rappel. S'enflamme Jalbert, qui commencera avec un slam pour enchaîner avec Rassure-moi, son dernier succès radio, avant de s'abandonner dans la thématique de ce nouveau spectacle nommé L'Amour propre. Un concert qu'il dédie à son amoureuse des 15 dernières années et la mère de leurs 3 enfants, comme pour lui rappeler que malgré les écueils, il tient le cap. Et parlant du temps qui passe, quelle est sa chanson, oui, nostalgique préférée? Il dit sans aucun doute « Motel, mon repos » de Beau Dommage. Il a eu la chance de la jouer avec Michel Rivard dans une loge. Il chantait et je la grattais à la guitare, dit David Jalbert à Claude André. Je lui ai dit à ce moment-là que c'était ma chanson préférée. Comme je venais du punk, je me demandais, plus jeune, comment toucher un vaste public. J'ai alors eu l'idée de mixer Plume et Beau Dommage en salissant un peu le style des seconds tout en cleanant un peu celui de Plume. La pièce préférée de Plume, c'est Le Faux Dur, mais il y en a tellement parce que pour David, il y a 3 grands auteurs encore vivants en français, Aznavour, Plume et Cabrel. Et ce dernier en particulier pour son utilisation singulière des pronoms personnels. Quand je n'arrive pas à comprendre la mécanique de travail d'un artiste, cela m'impressionne. Un peu comme le peintre Dali, lorsque j'observe ses œuvres, je me demande toujours comment il a fait pour parvenir à un tel résultat. Je me disais alors, c'est mon préféré. Et puis David vient du punk, alors quel est son album préféré dans ce créneau? Eh bien sûr, c'est And Out Come the Wolves, le 3e album du groupe Rancid. Et oui, il l'écoute encore et en fait, il aime vraiment tous les styles musicaux. Son fantasme d'artiste serait de jouer avec Lennon et Jean-Pierre Ferland, même s'il ne l'a pas nommé tantôt, il fait partie de ses auteurs favoris. J'ai même déjà rêvé qu'il devenait mon mentor. Un autre fantasme aurait été de faire de la musique avec Charlie Chaplin, ce qui m'aurait permis de le rencontrer. Son meilleur show à vie date des années 90. Au défunt Spectrum, il est allé voir les spectacles de Jean Leloup qui l'ont littéralement fait capoter. Je me souviens qu'il commençait en lisant de coulisses une biographie de Bill Gates avant d'entamer sur scène le fameux hit 1990. D'ailleurs, avec Dehors novembre des colocs, les albums L'amour est sans pitié et Le dôme de Leloup figurent au sommet de mon panthéon personnel. Et cet article-là me fait penser, cette semaine, en fait, le 14 avril, non seulement c'était l'anniversaire de Simone de Beauvoir, mais là, on m'a fait la demande ce matin, c'était l'anniversaire d'un de mes anciens collègues de travail. Alors, mes collègues du Café Gourmet me demandent de souhaiter un joyeux anniversaire en retard à Frédéric. Et la chanson 1990 est une chanson qu'il écoute encore beaucoup et elle jouait souvent au café. Alors, bon anniversaire, Frédéric. Et pour David Jalbert, c'est ce soir et demain à 20h au Lion d'Or.
On va aller tout de suite en cinéma avec le film Sils Maria, en effet, d'Olivier Assayas, avec Juliette Binoche, Kristen Stewart et Chloé Moretz. Se déploie lui aussi sur un parcours particulièrement sinueux. Dans ce jeu de miroir constant qui brouille la frontière entre réalité et fiction, vie imaginée de vedette ou vie réelle, Maria Anders, jouée par Juliette Binoche, est une actrice quadragénaire que l'on rencontre alors qu'elle se rend en train à un hommage au dramaturge Willem Melchior qui a lancé sa carrière. Accompagnée de Valentine, jouée par Kristen Stewart, sa secrétaire, confidente, assistante qui gère son emploi du temps et son divorce comme une pro, l'actrice apprend la mort de son Pygmalion. Sur les conseils de Valentine, Maria accepte de jouer dans une nouvelle mise en scène de Majola Sneck, la pièce qui a lancé sa carrière. Mais la relation entre les deux femmes se trouble au fur et à mesure que Maria, aidée de Valentine, apprend les textes de la pièce de théâtre. il faut saluer l'extraordinaire naturel des trois actrices. Si celui de Juliette Binoche est un acquis, celui de Kristen Stewart, qui a d'ailleurs reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle en février dernier, est confondant et rappelle à quel point la jeune femme a du talent, fait oublier un petit peu la saga Twilight. La prestation de Chloé Moretz, quant à elle, est à la hauteur de celle de ses consoeurs dans ce long métrage qui n'est pas sans rappeler Eve de Joseph Mankiewicz. Pas de doute, Olivier Assayas livre ici un petit bijou, véritable régal intellectuel qui titille les neurones de tout amateur du 7e art et que l'on s'empresse de revoir. Ça a été noté 4 sur 5 par Isabelle Honteberry dans le journal du 24 heures. Donc on s'empresse d'aller le voir, c'est Silmaria.
Merci Jennifer.
J'aurais jamais dû te laisser m'approcher. Quand tu dis mais tu sais comment nous enjôler. J'aurais jamais dû te laisser faire à ta guise. Je t'en veux, mais plus encore je m'en veux. J'aurais jamais dû te laisser me paralyser. Quand tu dis mais tu peux vraiment tout dévaster. J'aurais jamais cru que tu m'inciderais à la bêtise. Je t'en veux, mais plus encore je m'en veux. Chemin que tu prends aux fines mouches pour me cautionner quant au moindre doute. Je me croise les bras, je ferme la bouche. Je t'en veux, je m'en veux, je t'en veux, je m'en veux. J'aurais jamais cru que je serais une proie si facile, qu'une phrase ambiguë me rendrait tout à coup servile. Je n'avais pas vu que ma prudence venait hantie. Je t'en veux, mais plus encore je m'en veux. J'aurais jamais cru que je voudrais être aussi tranquille. Et je m'habitue, je continue, je me défie. Qu'ai-je fait de mes buts, je ne suis plus que couardise. Je t'en veux, mais plus encore je m'en veux. Je t'ai prise pour ma sœur, je t'ai suivie. Mais tu n'as pas de cœur, tu m'as endormie. Plus jamais maudite peur, je serai ton.
Alors, on écoutait « Maudite peur » de Geneviève Bilodeau et on reste dans la thématique de l'horreur parce que Charles, tu nous parles d'horreur, de films d'horreur.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est un article intéressant dans Le Devoir qui nous parle du film traqué et aussi du phénomène du film d'horreur dans la société. C'est des mots de François Lévesque paru le 11 avril. « L'horreur nue », ça s'appelle. Les films d'horreur, bons ou mauvais, se révèlent souvent plus intéressants pour ce qu'ils cachent que pour ce qu'ils montrent. Il n'est pas question ici de ces détails sanguignolants qu'un cinéaste choisit de suggérer hors champ plutôt que d'exhiber à la caméra, mais bien du propos sous-jacent, fut-il réfléchi ou involontaire. Le drame d'horreur traqué constitue la plus récente illustration qu'un film d'horreur est rarement juste un film d'horreur. L'histoire, c'est quoi? C'est après avoir été drogué par Greg, un garçon qu'elle fréquente depuis peu, Jay se réveille dans un immeuble désaffecté. Derrière elle, Greg promet qu'il ne lui fera rien, puis il entame un étrange monologue. Il prévient Jay qu'on lui a passé quelque chose, que ce sera bientôt là et que ça peut prendre l'apparence de n'importe qui, d'un proche, d'un inconnu marchant droit vers elle, que ce n'est pas rapide, mais que ça la retrouvera inlassablement et qu'elle devra à son tour le passer à quelqu'un d'autre en faisant l'amour. Faute de quoi, ben, trois petits points. Et voilà que s'avance vers Jay, une femme nue, pas exactement spectrale, mais qui n'appartient pas de toute évidence au genre humain. Sa présence dans ce contexte après ces paroles est terrifiante. C'est primitif et dérangeant. Les frissons ne font en l'occurrence que commencer. Certes, l'effroi s'émousse à la fin, faute d'un dénouement à la hauteur du concept, mais les trois quarts du film fonctionnent fichtrement bien pour qui prend plaisir à courtiser l'insomnie. Surtout, ce bémol ne parvient pas à distraire ce qui grouille sous la surface horrifique du film de David Robert Mitchell, le danger criant des ITS, les infections transmissibles sexuellement, auprès d'une génération qui se croit immue avec cette entité qui se transmet par le sexe. Ben, ici, c'est un petit peu un démon transmis sexuellement dans ce film-là. Sur le plan sociologique, en effet, le cinéma d'épouvante n'a pas son pareil pour rendre compte de l'état d'esprit d'une société à un moment X. Dans l'histoire, les États-Unis sont évidemment plus portés sur l'auto-analyse, en témoigne leur abondante production. Par exemple, l'invasion des profanateurs en 1956, avec ces Américains moyens remplacés par des doubles extraterrestres en pleine hystérie communiste, ou encore la nuit des morts vivants en 1968 et cet ultime survivant noir tiré à bout portant par l'armée pendant que les pays vibrent au rythme du mouvement pour des droits civiques. Sinon, en 1975, il y a eu les femmes de Stepford, auxquelles les chers maris subsistent des clones robots plus obéissants venant rappeler la fragilité des acquis féministes. Même lorsqu'il demeure au ras les pâquerettes, par exemple dans Vendredi 13 en 80, où un tueur masqué massacre un groupe d'adolescents libidineux alors que le conservatisme reprenait ses droits après les écarts du Peace and Love et l'amour libre, le film d'horreur finit généralement par exprimer beaucoup plus que ce qui est écrit dans le scénario. Et c'est justement parce qu'au niveau du subconscient, il évoque des enjeux vécus ou ressentis ici maintenant qu'il résonne auprès autant de monde, ou peut-être parce que simplement on aime avoir peur. Donc ce film Traqué est disponible dans vos cinémas.
Merci Charles. Place maintenant au nouveau dictionnaire. Écoutez, il y a un nouveau dictionnaire populaire de Montréal qui a été lancé et qui décrit parfaitement la vie dans la métropole. L'article a paru sur le site de Nightlife le 30 mars dernier parce qu'en fait, en début d'année, l'équipe de l'émission Radio C'est pas trop tôt à Radio-Canada a demandé aux auditeurs de leur envoyer des textes et des caractéristiques qui sont particuliers à Montréal. Alors, il y a plus d'une centaine d'auditeurs qui ont répondu à l'appel de l'équipe présidée à l'époque par Marie-France Bazot et ils ont fait une sélection. Alors, évidemment, là, il y a beaucoup de définitions. J'ai fait moi-même une sélection pour l'émission. Alors, il y en a certaines qui sont vraiment loufoques, vraiment hilarantes. D'autres sont plutôt virulentes. Par exemple, d'après vous, Charles et Jennifer, quelle est la définition de manifestation?
C'est un regroupement de gens qui veulent s'exprimer sur un
mouvement,
sujet X.
Mouvement de foule.
Ouais, mouvement de foule.
Ça, c'est la définition classique, mais pour vraiment faire...
On est classique.
Pour Montréal, vous êtes classique, vous êtes sage. Eux, ils disent, c'est un mode d'expression du mécontentement vers le gouvernement qui n'est légal que pour l'école bleue. Ouch, c'est Philippe Gaboury qui a dit ça. D'autres
c'est
qui sont... C'est virulent. Youpi. Ça me fait vraiment rire.
À chaque fois, on a envie de dire « Hourra » après.
Mais... C'est une mascotte qui risque de souffrir d'un syndrome de bipolarité si les expos reviennent. C'est par Isabelle Marsan. Alors là, j'ai fait une petite sélection. Le dictionnaire est toujours disponible sur le site web de « C'est pas trop tôt ». Alors, j'ai choisi, je vais aller dans les temps de l'émission. Exemple, « Beau dommage », le groupe de musique. Là. C'est le précurseur d'Arcade Fire. Et Arcade Fire, eh bien, c'est la suite logique de Beau Dommage. C'est par Martin Plante. Banlieue. Exutoire de proximité à la vie urbaine. Plus de la moitié des Montréalais disent que ce soit sur l'île ou une des... Ils vivent, oui, sur l'île ou une des rives du Saint-Laurent. Souvent regardée de haut par les citadins et longtemps considérée comme une excroissance temporaire, la banlieue n'a cessé de croître. Il faut maintenant se rendre à l'évidence. L'Eldorado de la vie tranquille, de la pelouse verte et de la piscine fait partie des valeurs québécoises. Le 10-30, par François Louis Cardinal, c'est une pâle copie d'une artère commerciale des grandes villes que la grande ville veut copier à son tour.
Ah, oh, c'est méchant.
Alors là, je vous laisse le choix. Voulez-vous la définition de la banquise, des escaliers, d'un hipster, du hockey ou du métro?
Un hipster, ça peut être.
Ouais, moi aussi, oui.
OK. État d'esprit, vestimentaire et pileux, qui, à force de vouloir s'éloigner de la mode, oui, de la mode, devient lui-même une mode. Attention, cet état a une date de péremption. Après 40 ans, on dit que c'est quétaine. Ah. Marie-Josée Bouffard. Ah, et bizarre. Puis, d'autres définitions, parce que j'ai une autre page. Je vous laisse le choix entre nid de poule, orange julep, oratoire, place Ville-Marie, plateau Mont-Royal, quartier des spectacles.
Plateau Mont-Royal, j'ai peur pour les Français, mais bon.
On va y aller avec Myriam Hood. L'âme de Montréal vit sur le plateau, ses odeurs de poulet flottant sur Rachel, ses touristes charmés qui rêvent d'y rester, le calme de la circulation sur la piste cyclable de Brébeuf, la douceur de vivre un dimanche ensoleillé de juin au Parc La Fontaine. C'est un poème, il n'y a aucun danger pour les Français. Moi, je vais y aller avec Tam Tam. Rendez-vous éclectique des hipsters, des Français du plateau, des hippies voilà. du ghetto McGill, voilà. des danseurs tribaux et des chevaliers. Pas besoin d'acheter de la marijuana, suffit de sentir, Trudeau y trouverait sa place. Bon. Par Marie la Manche. Et puis, une petite dernière, oui.
Moi, je serais intéressée, ouais. le nid de poule.
Le nid de poule, oui.
Moi, je suis en vélo, bien puis sûr. Tous les jours, j'en prends. Là.
C'est par Philippe Gaboury encore, celui qui a été virulent avec les manifestations. Eh bien, les nids de poule, c'est là où l'on trouve des œufs d'or des marchands de pneus ou parcours à obstacles printaniers.
Ah,
j'y vais ça. Avec une dernière définition. Je voulais choisir pour moi la Zamboni ou Westmount?
Zamboni.
Zamboni. Allez. Par Philippe, il y a deux définitions. Par Philippe Gaboury, c'est... On prépare l'hôtel pour la messe qui est le match du Canadien, ou bien par Pascal Genet, surface utile pour lisser ou refaire la glace d'une patinoire. Bon, ça, c'est la définition classique. Mais en politique, une Zamboni ou Zambino Zambuto est un individu utile pour lisser et refaire la réputation d'individus soupçonnés de corruption ou de détournement de fonds municipaux. Amusez-vous bien avec les définitions, tout le monde. Alors voilà, le dictionnaire, je vous rappelle, est toujours disponible sur le site web de C'est pas trop tôt. Et puis, on va en pause publicitaire et on continue la lecture d'articles super intéressants. Restez avec nous.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
On est de retour. Maintenant, on s'en va en théâtre. Je vais vous parler d'un spectacle qui sera joué à Québec, Usage. C'est un texte de Éric Moreau dans Le Soleil, paru le 14 avril. Un samedi soir, un bar, trois jeunes âmes en peine. On sait que ça va mal finir. Pas dans la tragédie, non. Dans les petits drames des abus et des dérapes incontrôlés et incontrôlables, exacerbés par l'alcool et le désir. Avec Usage, Amélie Bergeron plonge dans l'hyper-réalisme intense et cru, parfois très drôle, qui met à nu la grande solitude de ceux qui font pas partie de la gang. Trois adolescents donc, un douchebag, dit-on, un geek et une femme qui rêve d'être pétard dans sa petite robe sexy. c'est quoi, tu t'es reconnue?
Non.
Ils ne sont pas sur le party, loin de là, mais tout comme tout le monde a l'air de s'amuser, ils vont s'entêter pour prouver qu'ils existent, oublier la monotonie de leur vie. Le portrait est dévastateur et il serait désespérant sans l'humour corrosif d'Amélie Bergeron qui signe texte et mise en scène. Elle expose toutes les petites bassesses de la condition humaine, celles qui reposent sur les mensonges et les moqueries, bêtises, le machisme, les stéréotypes intégrés, mais qui cache souvent un mal de vivre. Amélie Bergeron renoue avec un bar dans un tout autre genre et un tout autre registre que Jusqu'à Lee, sa première pièce. Pas d'affrontement ici, au contraire, les protagonistes monologuent à tour de rôle, bien que leurs voix se répondent et se superposent parfois. Ils évoluent dans le même huis clos, souvent ils se voient parfois, mais ne se parlent pas. Usage est surtout une pièce sur l'incommunicabilité et le mal-être qui est à la source de ça. Il y a certainement une filiation entre son théâtre et celui de Fabien Cloutier, pas seulement dans l'usage vernaculaire de ces jeunes, mais aussi dans la volonté de mettre en scène le vrai monde, comme chez Michel Tremblay. Mm-hmm. Le geste, le genre qui ne laisse pas indifférent. La pièce Usage demeure à l'affiche jusqu'au 2 mai, à premier acte à Québec. On vient d'entendre Of the Night du groupe Bastille. Et là, Jennifer, tu nous racontes une histoire là, sans dessus-dessous. Vraiment, là, le profil Amina, c'est un film qui va paraître.
Exactement, et oui. Et ben, justement, à quel moment un réalisateur trouve-t-il son style? Quel est le long métrage qui va permettre d'affirmer avec certitude que tel ou tel cinéaste va laisser sa marque? Ben, pour Sophie de Raspe, il s'agit sans l'ombre d'un doute de son projet Le Profil Amina. Isabelle Hondeberry nous en parle un petit peu plus en détail dans le journal du 24 heures. Vous n'avez pas entendu parler d'Amina Araf, cette blogueuse syrienne d'origine américaine, lesbienne, qui racontait le quotidien de la population de Damas au plus fort du printemps arabe en 2011. Amina est dans la rue. Elle se bat avec des mots, elle conteste, elle raconte. Elle a d'ailleurs ouvert un blog, A Gay Girl in Damascus, dans lequel elle fait la chronique de sa réalité et celle de ses compatriotes. Un soir, Amina raconte comment son père claque la porte au nez de la police secrète venue lui chercher des noises. Tout le monde relaye cette information. Les médias traditionnels, autrement dit établis comme le Guardian britannique, s'emparent de l'histoire, interview Amina par chat ou courriel interposé.
puis le coup près tombe. Amina s'est fait arrêter. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Le département d'État américain, inondé de messages d'amis virtuels de la jeune Syrienne, lance une enquête. Et là, l'impensable se produit. Amina n'existe pas. Elle est une supercherie, un mensonge, la création électronique d'un Américain qui habite dans l'État de la Géorgie. Voilà le fil d'Ariane remonté avec minutie par Sophie de Raspe au travers d'entrevues menées de main de maître. Elle parvient à mettre en scène d'une manière profondément émotive un concept né dans un imaginaire puis devenu collectif. Elle donne une voix, par moments superbement soutenue par une musique parfaite, à Amina, dissèque ce qui fait que Sandra et des milliers d'autres personnes se sont laissées prendre par ce mirage. C'est à voir, ça s'appelle le profil Amina.
Jennifer, tu me parlais du profil Amina, mais peut-être que ce genre de phénomène de société sera le sujet d'un film d'horreur prochainement.
Oui, ça, cas, ça si peut être possible. Oui. Oui.
Maintenant, on s'en va en gastronomie.
Oui.
Là, Rémi, pendant la pause musicale, est venu nous porter du jus d'orange.
Merci, Rémi.
Oui, et là, il nous manque un croissant.
Il
mais
nous manquerait
je pense
quelques
que...
croissants. Oui.
Quelques
oui,
croissants. Ça. Eh bien, ça tombe bien, parce que bientôt, il va y avoir le festival la fête du croissant à Montréal. Et puis, c'est un article qui a paru le 8 avril dernier. C'est écrit par Sandrine Vincent sur le site Nightlife. Alors, si tu tripes sur ces délices feuilletés et beurrés que sont les croissants, tu risques de trouver ton bonheur lors de la fête du croissant où des établissements montréalais et ailleurs au Québec offrent ces délices maison pour la modique somme $1.
Mm-hmm. Voilà.
Une pièce pour des croissants.
On peut le trouver dans la rue, son croissant, là, avec
oui.
un peu d'effort.
On pourra même en acheter deux, comme ça.
Oui. On connaît peu de gens qui n'aiment pas les délicieuses viennoiseries que sont les croissants, surtout si elles sont faites à partir d'une méthode respectant la charte des artisans viennois. Alors, la charte est disponible sur le web. Elle est surlignée dans le texte. De la méthode de roulage au beurre utilisé en passant par la méthode de distribution, cette charte définit les fondements d'une production à échelle humaine. Les boulangeries et pâtisseries qui offriront des croissants à 1$ lors de la fête du croissant respectent le savoir-faire artisanal qui confère aux viennoiseries bien particulières. Intéressé? Voici la carte qui dénombre les endroits où il sera possible de te procurer. Et là, il y a des notes de musique, alors je vais chanter un peu. Des croissants de soleil pour déjeuner. OK. Alors, il y a la carte du Québec et puis les endroits rapidement à Montréal où les croissants sont disponibles à 1$. On parle de Fou Dessert, Le Petit Atelier, Les Copains d'abord, La Petite Boulangerie et plusieurs autres commerces de la ville. Ça se passe quand? Eh bien, on a du temps pour économiser nos dollars encore. C'est le dimanche 3 mai prochain. On peut également faire un tour sur leur site web. Il y a une page qui s'appelle « La fête du croissant » et on voit l'affiche. Et en fait, non, ils disent le 3 mai pour tous les commerces, mais également le samedi 25 avril. C'est sur l'image et là, on voit la farine, le sucre, le lait, les œufs, la pâte feuilletée et le beurre. Vraiment, c'est une super belle affiche. Je veux ça dans ma cuisine. Et puis, ça se rend, alors évidemment, la grande région de Montréal, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Québec et Rimouski. Alors, c'est à ne pas manquer tout le monde. Bon appétit. Moi, je vais boire mon jus d'orange en attendant.
La chatte sur un toit brûlant, avez-vous déjà vu ce chef-d'œuvre de Tennessee Williams, mesdames?
Non, mais il faudrait.
Ben oui, c'est un incontournable. Éric Moreau, dans Le Soleil, va vous donner l'appétit de cette pièce. L'appétit pour aller la voir.
En mangeant des croissants.
Exactement. Bon, c'est paru le 16 avril, la chatte sur un toit brûlant, l'hypocrisie exposée. La saison se clôt de belle façon à l'aborder avec une représentation percutante de la chatte sur un toit brûlant, le chef-d'œuvre de Tennessee Williams. Ce drame rageur expose l'hypocrisie de l'éternelle représentation à laquelle on se condamne sous la pression sociale. Comptant sur une solide distribution, Maxime Robin signe une mise en scène d'une efficacité redoutable en mettant l'accent sur les dialogues aiguisés et l'humour dévastateur du grand dramaturge. La pièce s'ouvre sur un gospel chanté par Cynthia Trudel, avec des acteurs en chœur. Nous sommes immédiatement plongés au cœur de cette riche plantation du Mississippi où Big Daddy, joué par Patrick Saussier, fête son dernier anniversaire, le 65e, par un soir d'orage au propre comme au figuré. Il est le seul à ne pas savoir se savoir atteint d'un cancer généralisé. Ses enfants placent leurs pions pour mettre la main sur l'héritage. Tous, sauf Brick, joué par Jean-René Moisan, fils chéri qui noie dans l'alcool le suicide de son meilleur ami, avec qui il entretenait une relation ambiguë. Sa femme, Maggie, jouée par Sophie Thibault, et non pas la journaliste Sophie Thibault, mais bien la comédienne. Oui, c'est ça. Veut désespérément le mettre dans leur lit pour qu'il conçoive un enfant. C'est la fameuse chatte. Cette famille dysfonctionnelle va s'entre-déchirer et faire tomber les masques dans un affrontement qui ne fait pas de quartier. Maxime Robin n'a pas cherché à réactualiser le drame, c'est le metteur en scène, plaçant l'action à l'époque où Williams l'a imaginé, au début des années 60. La chatte a-t-elle encore une résonance de nos jours? Absolument, écrit M. Moreau dans Le Soleil. Ces thèmes sont à l'épreuve du temps. L'hypocrisie, le mensonge, la convoitise, l'argent, le deuil, le désir, l'incommunicabilité, hein, c'est un thème récurrent, l'homosexualité refoulée, etc. La chaleureuse ovation à la fin de cette première, mercredi soir à l'abordée, est un signe qui ne trompe pas, une franche réussite. La pièce « La chatte sur un toit brûlant » demeure à l'affiche jusqu'au 9 mai à l'abordée.
And shove, living every single day and like I lose my mind. Wonder what the reason could be, and I can't find a sign. Single mom struggle, babies kill that war. Young man gunned down in front of liquor stores. The homeless, dope fiends, lost dreams and abandoned. Behind bars, all stars, how they still standing? Landing in this ish like every single day. You get a little something and they're giving it away. Genocide, junkies, and gentrification. Human trafficking, sex slaves, and automation. Placing society for poorest at the bottom. Where lack of education lead to increase the problems, yeah. Robbing and we stealing, we killing and we dying, struggle and we stress, get free, getting high end, dreaming for the high end, but it don't ever change, better off kill dreaming, and drink away the pain, too beautiful to hate and too ugly to love, too beautiful to hate and too ugly to love, too beautiful to hate and too ugly to love, I'm on the wings of my angels who pass because it's too beautiful to hate and too ugly to love, yo the streets mad dirty but this love's above, it's too beautiful to hate and too ugly to love, I zone out to the beat and enjoy the buzz, it's too beautiful to hate and too ugly to love, yeah, too beautiful to hate and too ugly to love, 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 love. See the kids and the joy, the innocence, pure heart things they enjoy. Mountain ranges, beaches, wind and the rain, the stars and the moon, skyscrapers are tame. So damn beautiful, perfect at all times. Even when my mom died, the sun still shine. When I leave man world and get lost in God nature, make me drop tears thinking why I can't relate to this. Absolute heaven, powerful bliss, love. All of the time to fit hand and glove. The baddest thug, even touched by a pure heart. The truth and no fronts, baby, that's pure art. Too beautiful to hate and too ugly to love, too beautiful to hate and too ugly to love, too beautiful to hate and too ugly to love, too beautiful to hate and too ugly to love, too beautiful to hate and too ugly to love, I'm on the wings of my angels who pass because too beautiful to hate and too ugly to love, yo the streets mad dirty but just look above, it's too beautiful to hate and too ugly to love, I zone out to the beat and enjoy the buzz, too beautiful to hate and too ugly to love, too beautiful to hate and too ugly to love, love, love. La,
Rachan Aman nous chante Beautiful Ugly.
Oui.
Geneviève, je crois que tu voulais nous donner encore une petite définition.
Oui, du dictionnaire, c'est que quand Charles lisait son article sur la chatte sur un toit brûlant, ben, le mot chatte m'a fait penser à chat de ruelle, une rue sans nom destinée aux enfants et aux cordes à linge par Alexandre Tremblay. C'est pas mal.
C'est pas mal.
Hein?
Oui, c'est pas mal.
Et puis aussi, ben, les chats, parfois, ils se réfugient dans les escaliers. Qui sont en fait des appareils d'exercice cardiovasculaire disponibles 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, en utilisation libre et gratuite, sans besoin de réservation, à vos risques selon la saison. Beaucoup plus avantageux qu'un abonnement au gym, par Lynn Bourbonnais.
Les salles de sport vont être contentes.
Oui. Et de ton côté, Jennifer, tu nous parles de Kevin Parent.
Oui, exactement. Alors, Kevin Parent, au pays de l'or noir, c'est le titre que Isabelle Hondeberry donne dans le journal du 24 heures. Si le titre de la critique est un clin d'œil à Tintin, le sujet du documentaire L'or du Golfe est tout sauf amusant. Après Roy Dupuis, qui nous a fait découvrir l'histoire du Québec dans l'empreinte, sorti il y a quelques semaines, voici que Kevin Parent s'intéresse à la question des forages pétroliers dans le golfe du Saint-Laurent. Le fait que des personnalités telles que Roy Dupuis et Kevin Parent s'intéressent à certains enjeux ne rend pas le propos plus pertinent, sérieux ni plus intéressant, mais on a tendance à y porter plus attention, ne serait-ce parce que leur présence génère la curiosité. Pourquoi l'ont-ils fait? Que pensent-ils de la question abordée? Et donne l'impression ou l'illusion de prendre part à une conversation. L'or du golfe s'intéresse à la ruée vers les hydrocarbures qui se déroulent actuellement. En fait, le documentaire a été tourné alors que Pauline Marois était encore au pouvoir. Plusieurs de ses interventions émaillent le long métrage dans le golfe du Saint-Laurent. Au cœur de toutes les convoitises se trouve le gisement potentiel, notez bien la présence du terme potentiel, de Old Harry, un endroit situé en plein milieu du fleuve et qui se partage 5 provinces. Bref, vous l'avez compris, tout le monde est sur le coup, tentant de ramasser la grosse part du gâteau à coups de griffes et de prédictions. Kevin Parent, au travers de nombreuses entrevues, s'intéresse aux inévitables conséquences écologiques, établissant avec l'aide d'experts des comparaisons avec notamment la catastrophe du Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, parallèle qui inévitablement fait froid dans le dos. C'est ainsi qu'on apprend qu'un déversement sur le site de Old Harry serait rapidement hors de contrôle, surtout s'il a lieu en hiver, que les normes environnementales canadiennes ne sont pas suffisamment strictes, etc. Mais le clou de l'or du golfe est sans conteste la série de calculs à laquelle se livre Kevin Parent, explorant toutes les possibilités et visant à répondre à la question de savoir si des forages à Old Harry seraient rentables ou pas. Je ne vous dis rien des réponses obtenues, elles valent leur pesant d'or du golfe.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée, les grands labos dorment sous la gelée. L'oiseau si beau, hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies. Les cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée, mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière, je sortirai brunu dans la lumière et lui ferai le salut de la terre.
Bon,
On écoutait un extrait de L'Hymne au printemps du beau Kevin Parent. Je suis très objective, comme vous voyez. Alors, c'est l'heure des brèves. C'est le temps des brèves. Charles.
C'est le printemps. Et bien, c'est printemps partout. Et à Québec, on fête le cinéma vert. À Saint-Casimir, c'est le 12e festival de films de Portneuf sur l'environnement. Je crois que j'en avais parlé brièvement il y a deux émissions de ça. Mais c'est jusqu'au 26 avril, plusieurs activités et projections sont à l'horaire. Outre la compétition internationale qui réunit 32 films provenant de 3 continents et portant sur divers enjeux environnementaux, la programmation comprend une exposition de toiles créée pour des livres pour enfants par l'artiste Mélanie Rose Quentin, une projection de court-métrage réalisée en 72 heures et aussi il y aura un forum sur les énergies fossiles. C'est à Saint-Casimir jusqu'au 26 avril.
D'autres petites définitions. Le hockey. On parle peu de sport à cette émission, mais reste qu'il y a une définition intéressante. Eh bien, c'est la religion d'un peuple, jeune ou vieux, anglophone ou francophone, par Fanny Leblanc. Le métro. Le métro a fait de Montréal une grande ville. C'est ce qui permet de se sentir montréalais sans avoir à vivre dans le centre-ville, par Isabelle Mascotte. La banquise, de retour à la nourriture, symbole par excellence des soirées montréalaises qui dérapent, symbole surtout d'un Québec éternellement divisé. A-t-elle été inventée à Drummondville ou à Victoriaville? Adorée par les uns qui font la queue à la banquise, snobée par les autres qui ne la consomment que si elle est inversée à Sherbrooke. On ressent de la fierté qu'elle s'exporte de plus en plus ou de la honte qu'elle nous représente à l'étranger. Nous qui avons tant appris depuis Jeanne Benoît. Fidèle de la recette traditionnelle chez Lafleur au explorateur façon viande fumée au fameux, dans tous les cas, une seule chose fait l'unanimité, non au fromage râpé qui ne fait pas chouic-chouic, par Stéphane Leclerc et aussi... La banquise est un endroit qui permet aux êtres vivants dans un climat polaire de se faire de la graisse. Dans le cas des phoques, il s'agit de la mer glacée. Dans le cas des humains, d'un lieu qui sert des poutines. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Montréal. Par les amichés. De rien.
Pour les femmes qui nous écoutent, si vous désirez une vraie soirée de filles et retomber en enfance, vous devez vous rendre au premier party pyjama géant organisé par Me, Myself and Montréal. Cinéma, popcorn, massage, manicure, cupcakes et plus encore sont au rendez-vous. Les billets sont en vente à la porte au prix de 44$ tout de même. Mais ça peut être très sympa, ça débute demain soir à 20h30 et c'est jusqu'à 7h30 le dimanche matin au cinéma Impérial. Mesdames, on vous y attend.
Les deux grands diffuseurs de courts-métrages, le cinéma Excentrice et le festival Fantasia, s'unissent pour célébrer le meilleur du genre au Québec lors de l'événement Vive le court libre. Avec des œuvres couronnées au Fantasia, au regard sur le court-métrage au Saguenay et au dernier gala des Jutras. C'est le 23 avril prochain à 21h. C'est représenté à l'Excentrice. Vous pourrez voir Invictum, Jutras, Sur le ciment de Robin Aubert qui sera présent pour répondre à vos questions. Tepa Game, Toutes des connes de François Jarosse en présence du scénariste et aussi du comédien Guillaume Lambert. Il y aura aussi Lazy Boys et aussi de Chaperoni.
Le quartier des spectacles, secteur par excellence pour la diffusion de la culture. Tout ça après près de 10 ans de démarches pour qu'il y voie le jour, Montréal n'a maintenant rien à envier à Barcelone, estimait le maire de l'époque. C'est faux, mais on y voit des moments mémorables, par Stéphane Leclerc.
À Montréal, si tous les samedis et les dimanches, ça c'est jusqu'au... je vais trouver la date un petit peu plus loin. Oui, jusqu'à la fin mai, il y aura plusieurs activités familiales qui seront proposées au Musée d'art de Montréal. C'est pour souligner l'exposition « Merveilles et mirages à l'orientalisme ». En vrac, création d'un tapis au motif animalier pour les 2 à 5 ans et leurs parents, bien sûr. Fabrication d'un tapis tressé, parcours ludique animé par les salles d'exposition. Il y aura aussi la création d'un bijou en métal repoussé.
«
Et en musique, si vous voulez découvrir une nouvelle interprète, elle s'appelle Vibi. C'est une Montréalaise d'origine camerounaise. Et ce mélange de deux cultures transparaît dans sa musique qui marie les rythmes africains et le pop soul urbain. C'est avec 9 musiciens que la chanteuse vous fera voyager dans son univers afro-soul. Ça débute demain soir à 20h à la Place des Arts.
Et juste avant de terminer, il y a Jean Leloup qui sera au Métropolis le 22 et 23 octobre, ainsi que le 5 décembre et le 13 décembre à la salle Wilfrid Pelletier en solo, également à Québec au Grand Théâtre le 12 décembre.
Des rendez-vous culturels à ne pas manquer. Merci Charles, merci Jennifer. Et nous, on sera de retour vendredi matin prochain. Merci Rémi, le jus d'orange était excellent. T'es toujours fidèle au poste. À la prochaine tout le monde, bonne journée.
Bye, bonne semaine.